Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Talisanté, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière.
Installez-vous confortablement pour le dernier épisode de la saison 1 de Par Intermittence et faites connaissance avec Leslie, violoniste du Quatuor Zaïd. Bonjour Leslie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Alors, je suis Leslie Boulin-Rollet, je suis violoniste du Quatuor Zaïd depuis 10 ans.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire un quatuor?
Alors, le quatuor à cordes est un genre à part entière qui a vu le jour avec le compositeur Haydn dès les années 1700. Et c'est un genre qui est encore aujourd'hui très répandu, puisqu'il y a des compositeurs et compositrices qui écrivent encore pour le quatuor aujourd'hui. Et donc c'est vraiment un répertoire extrêmement vaste, qui est aussi grand que, on va dire, le répertoire pour piano ou orchestre symphonique. C'est composé de deux violons, un alto et un violoncelle.
Alors, c'est quoi la différence entre tous ces instruments?
Alors, le violon, c'est le plus petit des instruments. C'est un instrument à cordes avec quatre cordes et qui est très aigu. L'alto est un plus gros violon, on va dire, mais ça a les mêmes quatre cordes que le violoncelle. Et ensuite, le violoncelle, c'est vraiment le gros instrument qu'on pique par terre, et donc qui est à la verticale par rapport à nous, et on les joue avec des archets.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du violon?
Alors ça, j'avoue, c'est un peu un mystère. À partir de 3-4 ans, apparemment, j'arrêtais pas de dire en boucle à mes parents que je voulais jouer du violon. Donc on pense peut-être que je l'ai vu à la télé ou en concert quand même. Mes parents, ils nous emmenaient au concert, tout ça. Bon, je sais pas, c'est un mystère. Mais à partir de 5 ans, j'ai commencé à jouer du violon.
Tu as commencé à jouer du violon toute seule ou t'as pris directement des cours à l'âge de 5 ans?
Ben, on est allé louer un violon au magasin de musique, et puis on est allé voir la professeure du conservatoire. Au conservatoire, moi je viens de Dole, dans le Jura, et on pouvait pas commencer l'instrument avant 6 ans. Du coup, j'ai pris des cours particuliers avec une professeure qui a accepté de me donner cours. J'avais 4 ans et demi ou quelque chose comme ça. Cette première prof était vraiment extraordinaire. J'ai toujours donc fait du violon en parallèle de l'école. À l'école, j'étais à Dole, j'ai eu vraiment la chance de rentrer dans une école CHAM, ça s'appelle, c'est les écoles à mi-temps. Donc j'étais à l'école le matin et j'étais au conservatoire l'après-midi. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, le primaire, le collège. Et par contre, en quatrième, les instruments, vous savez, ça va très vite, en fait. Il faut, on commence tôt. Et donc, c'est vrai que bah, vu que je faisais beaucoup de stages en parallèle de musique de l'école, pendant les vacances et tout ça, en fait, les profs me disaient, bon, bah, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut rentrer au conservatoire à Paris, tout ça. Donc, en fait, en quatrième, en collège, moi, je suis rentrée au CRR de Boulogne-Billancourt. Et par contre, quand j'ai eu mon brevet en troisième, je suis rentrée dans une école mi-temps à Paris. Et donc là, parce qu'en fait, à Paris, ils pouvaient faire le baccalauréat littéraire à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Donc là, pour le coup, j'étais à l'école le matin au lycée et au conservatoire pour le violon l'après-midi au CRR de Boulogne. Ensuite, en France, il faut tous rentrer au CNSM de Paris. Je l'ai passé pendant mon année de bac. Et en fait, bah, je ne suis pas rentrée, je ne l'ai pas eu. Et du coup, ça a tout remis en question. Et je suis partie aux États-Unis. Je suis rentrée dans une université américaine, à Lawrence University dans le Wisconsin. Et c'était vraiment génial parce que c'était une aventure incroyable, un apprentissage incroyable, une ouverture d'esprit incroyable, une nouvelle manière d'appréhender la musique, le violon. Et donc, je suis restée un an aux États-Unis et ensuite je suis rentrée au Royal College of Music à Londres. Donc là où j'ai fait mon bachelor pendant 4 ans. Et enfin, j'ai fini toutes ces études avec un master à la Guildhall School of Music à Londres aussi. Et donc là, Londres, c'est vrai que ça a été ma patrie d'adoption pendant 10 ans. Parce que un peu comme l'Allemagne, Ces deux pays-là sont vraiment... Il y a de la musique partout, à l'université, il y a des orchestres partout, même les gens qui ne font pas de la musique pour leur travail. Donc en fait, c'est vraiment génial. Dans les campagnes, il y a des orchestres, il y a des fanfares. En fait, ils vivent vraiment en musique.
À quoi ça sert un concours ? C'est quoi les modalités et comment tu les prépares ?
Alors, on travaille pendant des mois, entre 8h et 10h par jour, avec des pièces extrêmement difficiles de virtuosité. Il y a 3 ou 4 tours, comme une compétition sportive en fait, c'est exactement la même chose. À quoi ça sert ? Les concours, ça sert à se démarquer, à avoir un prix, et parce qu'en fait, en musique, il n'y a pas vraiment d'autres genres de distinctions. Pour se distinguer en tant que soliste, eh bien, il y a les concours qu'on gagne. C'est comme on imagine les Jeux Olympiques, c'est exactement la même chose en fait. Après, justement, j'ai été dans un contexte où mes parents ne m'ont jamais dit « tu es la meilleure, tu vas réussir » ou surtout « il faut que tu gagnes ». Jamais j'ai eu ça. Heureusement d'ailleurs, je les en remercie parce que vraiment, je pense que c'est vraiment tellement bête de faire ça. Mais par contre, j'étais vraiment super motivée parce que je trouvais que ça me faisait faire beaucoup de progrès après les concours. Par contre, quand j'étais au concours, je trouvais ça complètement aberrant, la manière dont ça se passait, la manière dont les jurys parlaient aux étudiants. Enfin, je veux dire, on parle on travaillait mais des heures, des milliers d'heures pour jouer nos trucs. Et puis, il y avait des commentaires comme « Oh, c'était pas le bon tempo » ou « c'était pas... » Toujours la justesse, c'était toujours un problème. Ou alors le rythme. Enfin, je veux dire, j'étais toujours choquée à quel point la technicalité était juste au centre de ce concours et absolument pas les personnalités, si c'était touchant ou quoi que ce soit en fait. Et du coup, c'était vraiment pour moi un peu vraiment bizarre. C'est pour ça qu'en fait, très vite, je me suis totalement détachée des concours quoi. Et puis surtout, en fait, justement, c'est là que je me suis posé quand même les questions de bien-être. Parce que en fait, ces concours, c'était vraiment des concours à la maltraitance en fait. C'était un violon déjà. Je sais pas si vous voyez, mais donc on le met sur l'épaule gauche. Ensuite, on met le menton sur le violon. Donc déjà là, il y a un décalage du cou. Ensuite, on tend le bras gauche pour aller faire toutes les notes sur le manche. Et ensuite, on a l'archet de l'autre côté, qu'on tient d'une manière vraiment extrêmement bizarre aussi, avec le petit doigt qui est toujours un peu tendu, voilà. Et puis alors vraiment, dans les concours, c'est celui qui va jouer le plus fort, quoi. Donc en fait, on se défonce le bras droit.
Comment t'as fait pour prendre conscience de ton corps, de l'impact de l'instrument sur ton corps ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou t'as eu tout de suite conscience des mouvements répétés, des postures contraignantes liées à ton activité ?
Non, en fait, moi je ne l'ai pas découvert très tard parce que, encore une fois, c'est une histoire de rencontres et de manière de faire en fait. Quand j'étais petite, j'étais hyper contente d'aller sur scène et de jouer. Et puis j'ai eu une professeure extrêmement abusive vers l'âge de 10 ans. Et par exemple, elle me prenait gracieusement le samedi après-midi pendant 3 heures chez elle. Et parfois, on pouvait rester à faire 2 heures la même note. Et je ne pouvais pas prendre de pause, je ne pouvais pas lâcher le violon. Enfin, c'était l'enfer en fait. Je ne comprenais plus pourquoi on faisait cette note. J'avais mal partout. Bon bref, c'était affreux. Et du coup, j'ai eu très très peur d'un coup d'aller sur scène.
Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent si tu joues debout, si tu joues assise ? Qu'est-ce que ça implique de tenir la note ?
Je suis debout pour faire du violon, pour jouer toute seule. On est assise en quatuor. Mais donc, j'étais debout, et puis donc avec les doigts appuyés sur le manche, et avec l'archet qui joue. Et donc ça, c'est avec les bras en tension, en apesanteur. Enfin, je veux dire, je pense qu'au bout de 5 minutes, en fait, n'importe qui a les bras. Même 5 minutes, c'est très très long, en fait. Et là, c'était vraiment pendant des heures et des heures et des heures, quoi. Donc oui, c'est très tendant. Donc vers 10 ans, cette prof abusive m'a vraiment coupé l'envie et la joie d'aller sur scène. D'un coup, j'ai développé un toc en fait. C'est que la première note qui sortait du violon, si elle n'était pas parfaite, bah, je lâchais complètement l'affaire. Donc j'allais quand même jusqu'au bout, mais j'étais plus du tout concentrée dans ma tête. Je lâchais, enfin j'étais vraiment... Et du coup, quand les auditions, quand l'échéance arrivait, bah, j'avais plus faim, je mangeais plus du tout. Enfin, j'avais plus envie de rien faire, quoi. Et j'ai eu la grande chance de trouver cette sophrologue incroyable et qui m'a vraiment sauvé la vie, en fait. Et en peu de temps, elle m'a vraiment remis la joie d'aller sur scène et tout ça. Je l'ai trouvée quand j'avais 14 ans. Et en fait, elle m'a suivie, je la vois encore de temps en temps. Donc ça, ça a été un peu le début de ma rencontre avec, bah, avec mon corps et en fait, ce qui se passait avec mon corps et avec le violon. Donc évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui est arrivé directement. On a travaillé très concrètement sur des situations. Donc là, c'était la situation de la scène. Mais ensuite, il y a eu bah, la construction de la confiance en soi, la relation avec les profs, la relation avec le monde, la relation avec la réalité, avec plein de choses qui étaient pas forcément faciles. Quand on est musicien, c'est vraiment facile d'aller se réfugier dans le monde de la musique. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la rencontre avec un maître de méditation incroyable en Angleterre. Et ça, c'était déjà avec donc Charlotte Maclay, la premier violon du Quatuor Zaïd, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 8 ans. Et donc, on a vraiment tout construit ensemble. Et ça, c'était vraiment aussi un grand chemin de vie ensemble à deux qui était extraordinaire. Et donc, on a suivi ce maître pendant... on est encore avec lui et tout ça. Pareil, là, la méditation a été vraiment une discipline à part au début de la musique. Et puis, petit à petit, on s'est dit « Ah, mais évidemment, en fait, ça s'intègre totalement à la musique. » Mais c'est pas évident, en fait, au premier abord. Et en fait, les deux se sont nourris de plus en plus, jusqu'à temps d'amener ça dans le quatuor. Et là, c'est en train de faire quelque chose d'extrêmement concret, avec lequel, maintenant, la musique pour nous et la méditation sont complètement liées. Mais c'est vrai que ça a été du coup un grand apprentissage depuis moi à l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant.
Ce sont des choses que vous abordez ou pas du tout pendant vos études ?
Alors moi, j'ai aucun prof de violon dans mes études qui m'ont parlé de ma position, de ma posture, du bien-être, de quoi que ce soit. D'accord ? Ça, c'est incroyable. Par contre... Au Royal College, on avait un cours de Alexander Technique. Donc ça déjà, c'était hyper bien. Mais il nous parlait beaucoup de notre posture au travail devant une table. Ou aussi de la manière de jouer un peu debout. Mais c'était quand même pas super lié, moi j'ai trouvé. Et ensuite, je voyais de maîtres incroyables du violon en dehors. Mais ça, c'était à partir de 23 ans, donc assez tard. Gordan Nikolic et Goran Gribarczewicz, qui eux... On m'ont vraiment parlé du violon avec le corps. Et ça, c'était la première fois. Et eux, ils sont extraordinaires, mais ils sont extrêmement rares à parler du violon et du corps. Et donc là, d'un coup, pour la première fois, ils m'ont dit « Mais il vient d'où ton son ?» Il vient du bassin, il vient des pieds. Et donc, on prend le son, on cède de tout notre corps pour produire un son. Il vient pas juste du bras, en fait, parce que sinon, c'est là qu'on se fait mal. Si c'est juste un son du bras et juste les notes du bout des doigts, mais là, on fait n'importe quoi, en fait. Tout est lié. Et donc, eux, ils ont remis du lien et ils ont remis du sens là-dedans. Donc ça, c'était vraiment un moment incroyable, extraordinaire, une épiphanie, quoi.
Est-ce que tu as une routine santé ?
Ah oui, bien sûr. Déjà, moi, toute seule, je fais de la méditation, du qigong, des échauffements, du yoga, presque tous les jours. Ça, c'est vraiment un maintien de la flexibilité du corps, d'une bonne énergie bien haute. Et puis, en dehors de ça, j'ai besoin d'ostéo, de kiné. Et je fais aussi de la cryothérapie. On rentre dans un frigo à moins 90 degrés. Et ça, franchement, pour moi, j'essaye de prendre des rendez-vous après les concerts. Et ça me fait vraiment du bien, ça me fait récupérer plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue après un concert, après les voyages. Et ça me remet assez rapidement en forme. Après, chaque musicien a sa routine. Mais voilà, ça c'est moi ce que je fais tous les jours.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton groupe ?
Oui, alors, le Quatuor Zaïd, donc on est 4 femmes. Dans notre sujet, c'est important parce qu'on a eu des enfants. Et donc ça a été un peu le point de départ pour une remise en cause totale. Quand je suis rentrée, moi, dans le Quatuor Zaïd, j'avais 29 ans. On était donc course au concours, course au concert. On était extrêmement actives. On avait 90 concerts par an dans le monde entier. Donc ça, c'était vraiment un pic d'activité assez fou. Et donc avec voiture, avion, train, tout le temps. Et puis, du coup, au bout de 2 ans de ça, je me suis fait une tendinite à l'épaule droite. Bon, voilà, j'avais un super kiné exprès pour les musiciens qui m'a vraiment bien aidée à me remettre. Moi, avec ma routine aussi, je me suis remise bien et tout ça. Mais du coup, c'est vrai que quand d'un coup les enfants sont arrivés, il y a eu une grosse remise en question. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on se disait plus bonjour, plus au revoir, qu'on se parlait très mal en répétition. Enfin, c'était vraiment devenu du staccanovisme, quoi. Je veux dire, on enchaînait, et puis on comprenait plus rien, en fait, au bout d'un moment. Ça n'avait plus de sens. Et avec les enfants, on est devenu plus sensible. On avait besoin qu'on nous dise bonjour, on avait besoin qu'on fasse attention à nous, on avait besoin de prendre une pause de plus parce qu'on avait faim. Enfin, il y a des choses qui ont vraiment changé.
Auparavant, vous ne parliez pas du tout entre les membres du groupe, vous étiez dans votre tunnel de travail, vous faisiez vos concerts, vous partiez à l'étranger, vous posiez aucune question. C'était le travail parce que il y avait beaucoup de compétitions aussi avec d'autres groupes, il fallait faire sa place, ou c'était parce que c'était comme ça, vous faisiez ce qui était sur la liste.
Vous savez, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait notre modèle de quatuor, c'était 4 hommes qui vieillissaient ensemble et qui pouvaient même plus se voir en peinture. Enfin, tous les quatuors que nous avons comme modèle, ils ont tous fini par se détester. Parce que, en fait, le quatuor, on dit toujours que c'est un mariage à 4. Mais c'est vrai, on fait tout, en fait. On répète toute la journée. On voyage ensemble, on mange ensemble, on répète ensemble, on joue ensemble, on boit des coups ensemble. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, non-stop. Et en fait, il y a un moment où on fait plus attention. Parce que c'est les gens de notre entourage, alors on ne met plus les formes, on commence à n'avoir plus trop de respect les uns pour les autres, on n'écoute plus trop ce que les uns et les autres ont à dire. Et puis bon, de toute façon, dans la musique, c'est un principe, on est comme des athlètes de haut niveau, il ne faut pas trop s'écouter, il faut y aller, on est vraiment dans un mode de compétition maximale. Donc en fait, il n'y a plus d'écoute du corps, plus d'écoute des autres. En fait, si on ne s'écoute pas soi-même, on ne peut pas écouter les autres. Ça, c'est quand même la base. Donc, on a toujours eu des modèles de quatuor qui se détestaient. Donc, en fait, on est devenu un quatuor qui se détestait, quoi. C'est un peu le chemin obligé.
C'est toi qui deviens un modèle maintenant.
Eh bien oui. D'ailleurs, on est très fiers de ça parce qu'on est toutes les 4 mamans. Et on a vraiment créé un modèle, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un déclic quand on a eu les enfants. On a tout repensé du début à la fin. Donc ça veut dire notre communication à 4, la manière de s'organiser au jour le jour pour les répétitions, la manière de s'organiser pour les concerts, la manière de s'organiser administrativement. Et donc une nouvelle manière de coexister ensemble.
Et comment elle se traduit, cette nouvelle organisation ?
Alors, on est passé de 7 jours par semaine sur 7 jours à 6 jours, ensuite à 5 jours, ensuite à 4 jours. On a de plus en plus cloisonné et vu exactement le travail qu'il fallait qu'on fasse. Parce qu'en fait, vous savez, le quatuor, c'est vraiment une organisation où on fait ce qu'on veut, en fait. Je veux dire, il n'y a personne qui va nous dire « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça ». Et en plus, nous, notre travail, c'est quoi ? C'est de travailler la musique, mais c'est tout. Mais en fait, le quatuor, quand on voyage partout à l'étranger, ça devient une entreprise. Donc en fait, il y a énormément de travail administratif aussi qu'il faut faire, qu'on faisait un peu à la sauvette dans les trains, à 22h dans le lit. Enfin, je veux dire, et ça, c'est plus possible, en fait, avec des enfants. C'est plus du tout possible. Donc, il faut qu'on puisse cloisonner, avoir des vies personnelles qui puissent être, où on puisse être avec nos familles tranquilles. Et être, quand on est dans le quatuor, on est dans le quatuor. Mais ça veut dire qu'on a défini des horaires, déjà. Ça, c'était incroyable qu'on puisse faire ça, de début et de fin, aussi bien pour nos répétitions musicales que pour tout le travail administratif qu'on avait à faire. Donc on a tout compté, on a mis des heures de répétition, on a mis des heures de réunion. Et c'est comme ça qu'on a réussi un peu à sortir la tête de l'eau et à pouvoir avoir notre vie de quatuor et notre vie personnelle de famille. Et aussi, je voudrais ici rendre un hommage à nos maris qui nous soutiennent et qui sont incroyables parce que nous ne pourrions pas le faire sans eux. Ça veut dire que les personnes qu'on a choisies et qui sont avec nous s'occupent de nos enfants, sont d'accord pour s'en occuper et pour prendre toute la charge de l'organisation du coup de la maison. Et donc ça, il faut le dire parce qu'en fait, c'est vraiment très important d'avoir une équipe qui nous soutienne et qui ils sont fiers de ce qu'on fait aussi. Et donc quand on part, on est trop contente d'aller faire ces concerts. Et ça, c'est quand même vraiment la base et c'est notre moteur. Il faut que ça vaille le coup pour laisser des enfants à la maison. Sinon, en fait, ça peut pas valoir le coup. Donc ça, c'est vraiment la base, l'essence de pourquoi on a changé. Il faut qu'on soit heureuse de faire notre travail. Et du coup, évidemment, ça change tout. Le son change, la manière d'interagir et surtout la manière de donner la musique au public, eh bien, elle change, ça c'est sûr.
Comment vous vous préparez avant un concert ?
Alors, la préparation en vue d'un concert, pour nous, il y a plusieurs étapes. On s'échauffe à quatre, donc par exemple, on prend une bonne position assise, parce que de jouer assis, c'est encore un tout petit peu plus traumatisant que debout, parce qu'on est un peu coupé en deux. Donc le premier truc, c'est vraiment d'harmoniser tout le corps ensemble. Donc par exemple, je vous donne des images très concrètes. On a les pieds dans la terre et on a la tête très haut dans le ciel. Et donc on a la colonne vertébrale qui s'étire à l'infini avec vraiment beaucoup d'espace entre chaque vertèbre, avec les genoux bien parallèles aux pieds. Et là, toutes les quatre, on ouvre nos cœurs, donc on peut imaginer la poitrine qui s'ouvre d'est en ouest, et on se connecte toutes les quatre ensemble. Donc ça déjà, c'est une sacrée belle manière de se mettre ensemble, en fait, dans un espace commun qui est aussi bien mental que physique. Et donc là, après, on fait une gamme ensemble, donc on va jouer exactement les mêmes notes, mais on va essayer d'aller chercher des autres sons que juste ces sons qui sortent un peu immédiatement. Et donc, on va vraiment harmoniser nos sons. Donc voilà, on a ces différentes... c'est un peu notre laboratoire de recherche, on aime bien dire ça. Et puis ensuite, ben voilà, on travaille, on répète avec cet enthousiasme et cet émerveillement par rapport à chacune, en fait. Quand chacune propose des choses, on essaye tout le temps. Oui, 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 on essaye. Et nous, on est vraiment dans cette problématique... maintenant qu'on est maman et qu'on voyage beaucoup, comment ne pas perdre d'énergie ? Et donc ça, c'est vraiment notre problématique du moment. Et donc, en fait, de se connecter à la terre, ça donne de l'énergie. De se connecter à la joie des autres, ça donne de l'énergie. En fait, toutes ces techniques, elles donnent de l'énergie, elles donnent de la joie. Et c'est pour nous comme ça qu'on peut avancer sereinement. Et parce qu'en fait, notre problématique quand même, c'est oui, on a toutes ces heures de répète, on a tous ces concerts, et puis on a cette carrière qui va durer, on ne sait pas jusqu'à quand.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans la musique et qui aimerait en faire son métier ?
Alors, vaste question. Je pense que déjà, il faut que les parents ils fassent très attention aux profs qu'ils choisissent pour le début. Parce que, comme j'ai dit, je pense que le premier prof, c'est vraiment celui qui doit donner l'amour de la musique inconditionnel, comme les parents qui donnent l'amour inconditionnel à leur enfant. Et puis ensuite, je dirais direct de faire attention au physique, à vraiment la manière de prendre l'instrument en main. Chaque instrument a vraiment sa propre problématique. Donc que ce soit n'importe quel instrument, en fait, je pense qu'il faut faire très attention au corps et à la manière dont on le fait, donc aussi au mental. Que ce soit toujours un moment de bonheur de prendre son instrument. Par exemple, un conseil pour tout le monde, que ce soit pour un enfant, pour un adulte, pour un professionnel, de se chauffer en faisant une gamme en marchant en arrière. Ça, c'est vraiment un des trucs les mieux qu'on puisse faire pour être dans une bonne posture. Parce qu'en fait, de marcher en arrière, ça fait que le dos, il s'ouvre. Et on se sent bien. D'un coup, les hanches se posent. Et il y a quelque chose d'un bien-être, vraiment, de tout le corps qui s'installe. On le fait d'ailleurs tous les jours avec le quatuor. Lorsqu'on arrive sur une scène, on va sur la scène, on va dans toute la salle et on marche en arrière en faisant des gammes. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Comme ça, on s'imprègne de la salle et on se met vraiment dans notre corps bien-être pour prendre vraiment toute la salle, toutes les énergies de la salle et pour se mettre bien. Voilà, parce qu'il faut toujours se mettre bien dans la vie.
« C'était le dernier épisode de la saison 1 de Par Intermittence, un podcast de Thalys Santé, le service de prévention et santé au travail des intermittents et des intermittentes du spectacle. Merci beaucoup à Leslie pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour la saison 2 de Par Intermittence. Merci à toutes et tous pour vos retours et vos encouragements. D'ici là, rendez-vous sur thalysanté.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.